Bonjour Immacula, bonjour Jean-Gilbert, bonjour vos amis, hello Sylvia, God bless you, bonjour Pasteur David aussi. Alors nous voilà rendus le vendredi 15 octobre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et on se prépare à un autre week-end dans la communion et dans la présence du Seigneur. Mon Dieu béni ou tout, Marie-André. Salutations, mon ami Farley. Bonjour à mon père et à ma mère. Alors, comme je le disais dans mon petit mot d'introduction que j'ai affiché, on est vendredi, ça devrait être journée de prière. C'est journée de prière, mais pour ce matin, il nous reste un enseignement à voir encore ce matin pour terminer cette série sur la tentation de Christ. Donc ce matin sera consacré à l'enseignement et on poursuivra donc la prière ce soir lors de notre rencontre de prière et d'intercession. Allô Farley, sois béni. J'ai bien hâte de te voir. Bonjour à Denise. Bonjour à Natacha, à Indirène et à la petite famille. Bonjour à la belle-mère. Néma qui est en train de se rafraîchir un peu, de boire un peu. Bruit que ma belle-mère apprécie entendre. On vous rappelle que les inscriptions ont encore lieu pour assister à l'assemblée de dimanche en présentiel. Donc, on vous invite... Si vous ne l'avez pas encore fait, à vous inscrire via courriel ou via appel téléphonique ou message téléphonique plutôt. Toujours courriel de l'église ou vous nous appelez au bureau à l'église et vous laissez un message. Je ne sais pas si c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui ou ce week-end. Donc, si vous savez que c'est l'anniversaire d'un de nos fidèles ce week-end ou aujourd'hui, juste nous en faire part. Comme ça, on saluera la personne. Alors, deux rendez-vous aujourd'hui, bien sûr, ce premier rendez-vous de la journée où on va terminer notre étude, puis ce soir, 19h, temps de prière et d'intercession. Buenos días, hermana Flori y hermano Luis, que Dios me les bendiga ricamente. Bonjour Thérèse, que Dieu te bénisse. Bonjour à Gérard et à Denise. Que Dieu vous bénisse. Ça doit être admirable dans votre coin ces derniers jours. À Montréal, ça change de couleur, mais en fait, il y a juste un arbre autour de chez nous qui a changé de couleur. C'est tout ce qui était frêne. Donc les frênes ont changé de couleur. Celui que j'ai sur mon terrain a pratiquement laissé aller toutes ses feuilles. D'après moi, avec la pluie de cette nuit, ça devrait être terminé pour celui-là. Et puis maintenant, il me reste un tilleul, un chêne, un érable. Je pense que c'est tout. Tous ces arbres-là viennent après. Donc, une fois que j'ai fait les feuilles, il me reste encore 4-5 arbres à attendre. Le dernier étant le tilleul. Lui, habituellement, les feuilles tombent avec la première neige, ce qui est un peu embêtant pour ramasser les feuilles, mais bon. Donc, le frêne, en tout cas, c'est presque fini. Cette nuit, ça devrait être chose terminée. Bonjour à la sœur Susanna, à son époux aussi, soyez bénis. Shalom à la belle-mère. Et si la belle-sœur est avec vous, on lui dit aussi shalom. Marie-Huguette, bonjour. Et comme je ne l'ai pas fait cette semaine, bonjour à Leïka et à Gaëlle. Il semble qu'il y ait quelques petites coupures. Je ne saurais vous expliquer pourquoi. Mais j'ai vu à quelques reprises l'écran virer au noir. Donc j'espère que ce ne sera pas trop problématique pour vous. Le son a été vérifié, ça semble correct. Souhaitons-nous que tout fonctionne bien ce matin. À l'occasion, l'informatique nous fait défaut, mais bon. Good morning, Pastor David. So glad to have you with us this morning. Bonjour Guy, très content d'apprendre que tout s'est bien passé. Sois béni et puis bonne convalescence. Le frère Guy qui avait une opération au niveau des yeux. Donc que Dieu te bénisse Guy. Alors encore une ou deux minutes, en fait deux minutes environ. Je me répète, mais il n'y a pas de trouble. Justement, commencer, c'est aussi bien de faire les quelques annonces maintenant. On reprendra ça à la toute fin aussi. On vous rappelle que les inscriptions pour l'assemblée de dimanche ont toujours lieu. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à midi aujourd'hui. Les dernières confirmations, puisque les premières ont été faites mercredi. La deuxième vague de confirmation a lieu cet après-midi. Et c'est ma mère qui contacte donc les personnes qui se sont inscrites depuis mercredi. Donc, on vous invite à ne pas oublier de vous inscrire, donc par courriel ou en appelant au numéro de l'église et en laissant un message téléphonique. Quand je dis courriel, je dis bien courriel et non pas Messenger. Certains font l'erreur de nous écrire par Messenger, mais ce n'est pas la voie à utiliser. Donc, c'est vraiment le courriel qu'il faut utiliser ou le moyen traditionnel de la boîte vocale de l'église au numéro habituel. De surcroît, on a un deuxième rendez-vous aujourd'hui, 19h ce soir, pour notre temps de prière et d'intercession. On espère que vous serez nombreux à être là pour ce moment, encore une fois, où on se présente devant le Seigneur pour intercéder les uns pour les autres. Bonjour à Samek, que Dieu vous bénisse, ma sœur. Bonjour à Babette et à Andreas, que Dieu vous bénisse. Bonjour Pascal, que Dieu vous bénisse. On prie aujourd'hui aussi pour Jean-Bernard, le grand fiston de notre sœur Pascal. Il passe un examen important aujourd'hui. Donc, que le Seigneur puisse l'aider, l'assister. Vous savez que Pascal et Jean-Bernard sont dans le deuil. On a fait les obsèques de Gabriel, l'époux de Pascal, le papa de Jean-Bernard. On fait donc les obsèques samedi. Et Jean-Bernard était dans une période d'examen. Il avait fait un examen, papa est décédé. Et il a ce deuxième examen donc aujourd'hui. Donc on va prier que le Seigneur puisse l'aider. Pensez à Jean-Bernard aujourd'hui et puis prier pour lui. Voilà. Alors on va prier pour débuter et après ça on y va avec notre enseignement du jour. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour cette occasion que tu nous donnes d'être rassemblés malgré la distance. D'être rassemblés effectivement pour étudier ta parole, pour plonger nos regards dans les saintes écritures. On demande, Seigneur, que tu nous inspires, que tu nous diriges, que tu nous parles, que tu nous conduises, que tu nous instruises. On a besoin, Seigneur, de la sagesse qui vient de toi. Nous savons que nos forces sont limitées, nos capacités sont faibles. On a donc besoin, Seigneur, que tu nous soutiennes à travers ta parole, à travers tes préceptes et tes pensées. Là où ma sœur est ce matin, je la bénis. Là où mon frère se trouve et il nous écoute ce matin, je le bénis. Et toute personne qui se joindrait à nous en différé, voire qui écouterait cette vidéo plus tard, on te demande, Seigneur, aussi de fortifier et de bénir ses bien-aimés. En toute chose, que toute la gloire te revienne à toi et strictement qu'à toi. Nous t'avons prié dans ton précieux et glorieux nom, le nom de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Alors, comme j'ai dit un peu plus tôt, il nous reste un enseignement à faire sur les tentations, sur la tentation de Christ ou sur les tentations de Christ, puisque, comme on a vu depuis le début de la semaine, ça s'est fait par étapes. On est aujourd'hui à la dernière étape de cette tentation à laquelle il a été soumis juste après son baptême. Et on va lire toujours le passage qui a été de mise tout au long de la semaine. Matthieu chapitre 4 du verset 1 à 11. Matthieu 4 du verset 1 à 11. Et puis je reprendrai les versets 8 à 10 qui nous servent de réflexion pour ce matin. Alors le verset 1 nous dit: Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, Jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Je reprends les versets 8 à 10 pour vous. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors que Dieu bénisse sa parole ce matin. On va, oui, effectivement, terminer notre étude sur la troisième étape de la tentation que Jésus a eu à affronter. Et de surcroît à cela, j'aimerais faire juste un addendum ou une incursion de côté, juste pour vous donner un verset qui nous parle de la séquence dans laquelle ou par laquelle opère la tentation le péché. Et ça, on le verra donc tout à l'heure, si on a le temps, sinon on le gardera pour un autre moment. Alors, comme on l'a fait, on vous rappelle que c'est en trois étapes que le diable est venu tenter Jésus. Il est d'abord venu le tenter en remettant en cause la propre personne de Jésus. Lorsqu'il s'approche de Jésus, des versets 2 à 4, il va dire, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Et là, le diable venait pousser Jésus à douter de lui-même, à douter du fait qu'il soit Fils de Dieu, et à lui demander, « Crois-tu vraiment être capable ?» Crois-tu vraiment être capable de changer les pierres en pain? Et c'est souvent ce que le diable vient à prime abord attaquer chez nous. Donc notre allégeance à Dieu, attaquer notre statut devant Dieu, attaquer notre statut d'enfant de Dieu, de racheté, de sauvé. Par la suite, le diable va continuer et n'attaque plus Jésus directement, mais va attaquer ou mettre en doute Dieu. Il va lui dire, jette-toi en bas, parce que de toute manière, il est écrit qu'il viendra à ton secours, que des anges vont venir à ton secours, que ton pied ne heurtera pas, que ton pied ne chancellera pas. Donc, si tu te jettes, assurément, si Dieu est Dieu, il prendra soin de toi. Alors, le diable, dans cette deuxième étape, vient pousser le doute contre Dieu. Crois-tu vraiment qu'il est capable? Tout à l'heure, c'est crois-tu vraiment toi être capable d'être ce que tu dis que tu es? Mais de surcroît à cela, maintenant, c'est crois-tu vraiment que Dieu est réellement qui il dit qu'il est et que Dieu fait réellement ce qu'il dit qu'il fait? Dans cette troisième étape et dernière étape aujourd'hui, le diable n'attaque plus personne. Le diable va dire à Jésus, voici ce que moi je suis capable de faire. Donc la première étape, c'est, es-tu vraiment capable, toi, d'être ce que tu dis que tu es et de faire ce que tu dis que tu peux faire? La deuxième étape, crois-tu vraiment que Dieu est ce qu'il dit qu'il est et est capable de faire ce qu'il dit qu'il fait? Mais là, la troisième étape, c'est, moi, Satan, je te propose telle chose, donc voici ce que moi je suis capable de faire. C'est le discours que le diable va tenir par rapport à Jésus. Je suis maître de cette terre, ces royaumes m'appartiennent. Si tu fais ce que je te demande, si tu fais ce que je réclame de toi, alors à ce moment-là, effectivement, je te donnerai domination sur l'ensemble de ces royaumes. Voici ce que moi, je suis prêt à t'offrir, va dire le diable à Satan. Alors, trois ou quatre choses, même un peu plus, concernant la tentation tout d'abord, puis la réponse de Jésus. La première chose qu'on peut remarquer sur la tentation et sur les essais que le diable fait auprès de Jésus, ici, il est en train de lui faire voir, miroiter l'ensemble des royaumes de cette terre. Et le diable lui dit, si tu m'adores, je te donnerai ces royaumes. Alors la première tentative de soudoyer Jésus se fait via l'appât de l'autorité. Et chez nous, ça se passe régulièrement. Le diable va venir nous susurrer à l'oreille qu'il va effectivement nous mettre en place, en autorité sur les autres. Souvent, le diable vient utiliser notre estime de soi qui est peut-être un peu faible, le rejet qu'on a pu expérimenter durant notre vie et nous proposer enfin, finalement, d'être plus haut que nos congénères, plus haut que les gens qui nous entourent. Et c'est tout le temps quelque chose qui est pernicieux. Souvent, il ne va pas dire nécessairement, voici, tu vas être en autorité, ou voici, tu vas être respecté, ou voici, je vais satisfaire ta fierté et ton orgueil. Souvent, il va tout simplement dire, voici, on va finalement reconnaître que tu es bon à quelque chose, on va finalement reconnaître que tu es doué pour une chose, on va finalement reconnaître qu'on est moins élevé que toi et qu'on a besoin de toi. Et régulièrement, on tombe dans ce piège-là, de vouloir une reconnaissance, de vouloir exercer un certain contrôle sur notre environnement. Alors la première tentative du diable dans cette troisième étape, c'est de soudoyer Jésus à travers l'appât d'une autorité. Rappelons-nous que Jésus a laissé son trône de gloire pour venir ici-bas sur terre et marcher comme le dernier des quidam, mourir de façon honteuse à la croix en prenant le péché de l'humanité sur lui, à un tel point que même Dieu va détourner le regard de sur Jésus, parce que tout le péché de l'humanité repose au moment de sa mort sur les épaules de Jésus. Et le diable va lui proposer, regarde, tu as quitté ton royaume céleste, tu as quitté la gloire de ton Père, moi je te propose la gloire de cette terre, je te propose l'autorité sur cette terre, autorité que moi j'ai parce que je domine sur cette terre. Donc le diable va appâter Jésus avec une quête d'autorité. Il va l'appâter aussi de façon très connexe, de façon très liée, avec un appât quant à la gloire. Tout à l'heure, c'était l'autorité, c'était enfin d'être utile, enfin de dominer sur les gens qui nous entourent, au lieu d'être nous sujets à l'autorité des autres, mais finalement dominés. Et de surcroît, ça, intimement lié toujours, l'appât de la gloire. Lorsque Jésus, on lui propose effectivement l'ensemble des royaumes de cette terre pour sa domination, c'est aussi une question de gloire là-dedans. Un roi est quelqu'un d'élevé. Le roi est le premier citoyen de l'ensemble du royaume, de l'ensemble du territoire. Et là, le diable propose à Jésus, tous ces royaumes, je te les donne. Donc, je te propose d'être non seulement en autorité, mais d'avoir la gloire inhérente au royaume de cette terre. Et parfois, effectivement, on veut la gloire. On l'appelle pas la gloire. On l'appelle la reconnaissance. On l'appelle être visible. On l'appelle être remarqué. On l'appelle ne pas être rejeté. On l'appelle être reconnu à sa juste valeur. Mais tout ça, lorsqu'on recherche cela, en fait, on recherche à être vu, on recherche à être entendu, on recherche à être remarqué. Et je pense que dans la nature humaine, oui, c'est quelque chose de tout à fait naturel, qu'on a tous à un niveau ou à un autre. La problématique, c'est lorsque cette quête de l'autorité, cette quête de la gloire vient à empiéter sur nos allégeances à Dieu, vient à empiéter sur nos engagements avec Dieu. Parce qu'ici, le diable va être très clair. T'arrêtes de servir Dieu, t'arrêtes de louer Dieu, t'arrêtes de l'adorer, ne serait-ce que pour un instant, pour un moment. Et si tu le fais aujourd'hui même, ben moi, je te donne l'ensemble du royaume. Donc, appât de l'autorité, appât de la gloire. Troisième appât, l'appât du gain. Si on est à la tête d'un royaume, ça veut donc dire que les possessions de ce royaume sont nôtres. Le roi était considéré, bien entendu, comme le citoyen le plus riche de la nation. Et parfois, effectivement, l'appât que le diable utilise, c'est aussi le gain, l'appât de posséder davantage. Et parfois, on est prêt à des compromis, on est prêt à des contournements de ce qui est juste et de ce qui est droit, tout simplement parce que on est en besoin et on espère avoir ou en soutirer un peu quelque chose. C'est un peu comme quelqu'un qui demande à Dieu de le protéger parce qu'il va au travail, mais que ce travail se fait en noir, que ce travail se fait en dessous de la table. C'est tout à fait dichotomique. Demander à Dieu, protège-moi alors que je m'en vais travailler, même si ce travail est illégal. Et soyons très honnêtes, j'ai entendu de nombreux chrétiens demander la bénédiction de Dieu sur leur vie, même si les domaines dans lesquels ils demandaient bénédiction étaient compromis par de l'illégalité, compromis par le péché et l'iniquité. Alors on demande à Dieu de nous aider, de nous faire fructifier, de nous faire croître au niveau mercantile, au niveau de l'argent, au niveau pécunier, même si ce qu'on est en train de faire comme pratique est illégal. Vous comprenez que Dieu ne peut pas bénir ce que je suis en train de tâcher par mon péché. Jésus va payer son impôt. Donc Jésus va payer les taxes qu'il doit à l'État. Il est donc normal que lorsque l'on travaille, si effectivement on est dans un pays qui collecte les impôts, si on est dans un pays qui taxe ses citoyens, il est tout à fait normal, comme Jésus l'a fait, donc à l'instar de Jésus, de payer ses impôts, donc payer ses impôts aussi sur nos revenus et sur notre emploi. On ne peut pas demander à Dieu bénis mon travail si mon travail est un travail illégal. Ça serait complètement absurde. Que Dieu dise, oui, bon, tu as travaillé, je te bénis. C'est absurde. Et parfois, on demande la bénédiction de Dieu et on est prêt à des compromis tout simplement parce qu'on se sent dans une situation précaire, on se sent dans une situation difficile, on se sent dans une situation de pauvreté et on dit, ben, Dieu va comprendre. Un jour, je parlais avec un ami, en fait, c'était un colloque à l'époque. Il me disait un proverbe qu'on disait dans son pays, il était ivoirien, peut-être que le proverbe existe ailleurs, mais il disait, un des proverbes, c'est voler le riche n'est pas péché. Voler, c'est voler. Que tu voles un pauvre, que tu voles un riche, voler, c'est voler. Et Dieu ne peut pas bénir le vol, et Dieu effectivement considère le vol, qu'il soit fait à l'encontre d'un riche, qu'il soit fait à l'encontre d'un pauvre, il considère le vol comme étant un péché, point à la ligne. Même si tu prenais les dividendes de ce vol pour donner aux pauvres, à la veuve et à l'orphelin, il reste que l'acte de prendre l'argent ou prendre les possessions de quelqu'un sans en avoir l'autorisation, c'est du vol et Dieu ne peut pas bénir ça. Alors faisons attention à ce que nous faisons. Faisons attention aux compromis auxquels on est prêt desquels on est prêt à accepter les enjeux, même si on sait que foncièrement ce que je m'apprête à faire n'est pas bien, est illégal et est donc réprouvé par Dieu. Donc, première tentative, l'appât de l'autorité. Deuxième tentative, nous soudoyer par l'appât de la gloire. Troisième tentative, nous soudoyer via l'appât du gain. Le diable, qu'est-ce qu'il demande à Jésus à ce moment-là? Il est en train de lui dire, voici tous les royaumes de la terre. Ce que je te demande, c'est de t'agenouiller devant moi et de m'adorer. Le diable n'a pas dit que ça serait pour toujours. Il a dit, là tu es devant moi, je t'ai amené sur cette montagne, on est juste toi et moi, prosterne-toi devant moi, adore-moi et tous ces royaumes sont à toi. La problématique ici est double. Premièrement, lorsqu'on adore quelqu'un, lorsque on se prosterne devant quelqu'un, on prend allégeance, on prête allégeance à cette personne. Ici, le diable se présentait comme le dominateur de cette terre et il disait à Jésus, abdique devant moi, mets-toi à genoux devant moi, comme un sujet se met à genoux devant son roi, et parce que j'en ai le droit, je remettrai entre tes mains l'ensemble de ces royaumes. Et là, c'est un changement d'allégeance. Jésus qui sort de la gloire de Dieu, Jésus qui vient, sur qui on vient de dire 40 jours plus tôt lors du baptême, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, cette voix qui émane du ciel et qui parle à l'égard de Jésus en ces termes. Et là, le diable lui dit, je sais qui tu es, je sais ce que tu fais. Je sais d'où tu viens, je sais qu'on t'appelle fils de Dieu, je sais que Dieu te considère comme son fils, mais moi je te propose, abdique devant moi, change d'allégeance et je te donne l'ensemble du royaume. Combien de fois par notre abdication au péché, par le fait que nous cédons au péché, combien de fois nous changeons d'allégeance. Nous proclamons que Jésus est notre Seigneur, mais pour un instant, pour un moment, on plie à la demande du diable et on fait un compromis avec lui. Donc une proposition d'allégeance, hein, ou de changement d'allégeance. Tu adorais Dieu hier, aujourd'hui adore-moi, puis voici ce que je te donne, puisque je suis maître de cette terre. Dernier point concernant la tentation. C'est aussi une proposition de compromis ponctuel. Lorsqu'on revient à l'étude des termes qui sont utilisés ici dans ce verset 9, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le temps qui est utilisé dans la formule grecque, ce n'est pas un temps qui s'étale. Donc le diable n'est pas en train de lui dire adore-moi pour le restant de ta vie. Ou prosterne-toi devant moi pour le restant de ta vie. Il dit non, fais-le maintenant, fais-le dans cet instant-ci. Et très régulièrement, on tombe dans le piège d'un compromis ponctuel. On se dit, mais c'est juste une fois, c'est juste l'occasion de, c'est juste le temps que ça me prend pour me refaire. Et puis après ça, je vais m'arranger. La problématique, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passe dans la seconde d'après. On ne sait pas ce qui se passe dans les minutes d'après. On ne sait pas ce qui se passe dans les jours qui viennent après. Est-ce qu'on aura le temps de se repentir? Est-ce qu'on aura le temps de se tourner vers Christ et effectivement reconnaître notre faute, notre iniquité et recevoir pardon de sa part? Donc le diable nous propose des compromis et il joue avec notre tête, il joue avec les mots. Je dis parfois, la seule personne qui veut un compromis, c'est le diable. Dieu n'en veut pas. Dieu veut le 100% de ton existence. Dieu veut le 100% de ton dévouement, de ton engagement. Mais le diable est tout à fait prêt à se contenter d'1%, voire même, il est tout à fait prêt de se contenter de 0,01% et de laisser à Dieu 99%. 99% du contrôle, tout simplement parce qu'il sait que Dieu ne veut rien d'autre que l'absolu 100% de la vie de ses enfants, de la vie de ses serviteurs, de la vie des soldats qu'il a à son service. Donc le diable va essayer de te convaincre qu'un compromis, qu'une position médiane, un petit pourcentage pour lui, puis un gros pourcentage pour Jésus, que c'est tout à fait satisfaisant. Il te dit ça pour te berner, il te dit ça pour te tromper, il te dit ça parce qu'il sait très bien que Dieu n'est pas près, lui, au compromis. Le diable est prêt à tous les compromis parce qu'il sait que Dieu ne veut de son côté aucun compromis. Quelles sont les réponses de Jésus maintenant à cette tentation, à cette ultime tentation? Encore là, il y a les deux mêmes paramètres qu'on a vus lors des deux premières tentations. Jésus qui se retourne vers le diable et qui lui dit, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors, premier point, ancrage et refuge immédiat dans la parole de Dieu. Ancrage et refuge immédiat dans la parole de Dieu. Jésus vient tout de suite brandir la parole de Dieu, brandir la vérité, le logos de Dieu, vient brandir la pensée de Dieu par rapport à sa situation. Et encore là, le besoin de connaître la parole de Dieu chez l'enfant de Dieu, chez nous, chrétiens, et de baser nos vies, de fonder nos vies sur cette parole de Dieu. Deuxième point, une proclamation audible de la parole de Dieu. Jésus n'est pas en train de penser à la parole de Dieu. Il la connaît, il l'a dans son cœur, et à ce moment opportun, il la proclame de façon très audible. Et j'ai dit tout au long de la semaine, il y a une puissance dans la proclamation audible de la parole de Dieu. Il y a cette puissance parce que la parole de Dieu par elle-même est puissante, mais il y a aussi cette faculté qui nous habite lorsqu'on se lit par nos propres paroles. Je comprends, il y a des gens qui n'ont pas de parole. Il y a des gens qui disent une chose et qui font le contraire. Mais pour la plupart des gens, lorsqu'ils ont proclamé publiquement une chose, ils s'y tiennent pour qu'on ne puisse pas les accuser d'être des hypocrites, des menteurs, des lâcheurs. Donc, il y a quand même une puissance toute particulière dans la proclamation orale, audible de la parole de Dieu. C'est un peu comme lorsque on est appelé à confesser nos péchés les uns aux autres. Je vous ai déjà expliqué qu'il y a une force toute particulière dans la confession des péchés les uns auprès des autres. Pourquoi? Parce que lorsque je confesse publiquement, lorsque je proclame la chose, lorsque je déclare la chose et que je m'ouvre à quelqu'un, il y a moins de probabilité de récidive à la chute et à l'iniquité. On dirait que parce qu'on l'a dit à quelqu'un, parce qu'une oreille humaine l'a entendu, et cette oreille est toujours capable de nous approcher, même 10, 15, 20, 30 ans plus tard, juxtaposant oreille et bouche pour nous demander « Mon frère, où est-ce que tu en es dans ce problème-là » D'une part, la personne, on lui est redevable par la suite, mais de surcroît cela, cette personne qui reçoit notre confession va aussi prier pour nous. Et il y a une puissance à avoir des gens qui prient pour nous. Et c'est la même chose ici au niveau de la proclamation de la parole de Dieu. Nous nous lions nous-mêmes par cette parole, dans le bon sens du terme, se lier avec la parole de Dieu est une merveilleuse chose. Lier nos mains, nos pieds avec la parole de Dieu, faire en sorte que nous marchons dans son chemin et que nous ne courons pas à droite et à gauche, ou que nous courons moins facilement à droite et à gauche. Ce qu'on peut remarquer dans cette dernière réponse de Jésus aussi, c'est que Jésus lui dit « Retire-toi de moi, Satan, retire-toi ». Donc, il y a une réponse qui est tranchante et sans hésitation. Vous savez, le grand malheur, c'est quand on demande à quelqu'un s'il est en règle avec Dieu, et puis la personne a comme un silence pendant un moment. Ça m'arrive régulièrement lorsque je rencontre des jeunes couples qui se fréquentent, qui parlent de mariage, qui veulent avoir quelques conseils au niveau de leur jeune couple, et je leur pose la même question pratiquement à tous. Êtes-vous en règle devant Dieu? Dans le sens, est-ce que vous êtes effectivement, est-ce que vous vous gardez propre, est-ce que vous vous gardez en règle, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans la promiscuité, dans la débauche, avant le mariage? Et lorsqu'il y a une petite hésitation, j'ai même pas besoin de réponse, je sais la réponse. Lorsque la réponse est instantanée, claire, précise, ça va être, les gens vont soit confesser directement la faute, pasteur, j'ai péché, ou pasteur, nous avons péché, ou les gens vont dire de façon instantanée, pasteur, on se maintient droit. Mais lorsqu'il y a une petite hésitation, ben là, on sait que la prochaine phrase sera soit tronquée et puis remplie d'un mensonge à un niveau ou à un autre, ou que cette personne, effectivement, va confesser, mais avec douleur, son péché. Jésus, ici, ne voulait rien avoir à faire avec le diable. Il voulait que ce soit clair comme quoi il n'avait pas le désir même de prêter allégeance au diable. Donc, il a été très, très clair, très tranchant dans sa prise de position. Il n'a pas flirté avec la tentation. Il a dit « Retire-toi, Satan, va-t'en, on arrête ça là. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. » Et notre réponse par rapport à la tentation et par rapport au péché devrait être tout aussi tranchante et sans hésitation. Notre engagement avec Christ, notre engagement avec Dieu devrait faire en sorte que nous soyons tranchants contre les tentatives du diable, contre les tentations du diable. Ce faisant, qu'est-ce que fait aussi Jésus? Il dit « Retire-toi de moi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Ici, il est en train de proclamer et de renouveler son allégeance à Dieu. On a vu tout à l'heure que si le diable demandait à Jésus de se mettre à genoux devant lui et de l'adorer, c'était parce qu'il demandait à Jésus de prêter allégeance au diable. Et la même chose ici, Jésus va répondre, « Moi, mon allégeance, je l'ai déjà proclamée, je la proclame de nouveau, je renouvelle mes vœux, je renouvelle mon allégeance envers Dieu. » Et ça, je pense que c'est une chose qui est importante pour nous tous à faire régulièrement. Et une allégeance, ce ne se fait pas en secret. Une allégeance, c'est pour que tout le monde la voie. Une allégeance se doit d'être vue, se doit d'être entendue, se doit d'être vécue. Donc, les gens autour de nous doivent savoir que nous avons prêté allégeance à Jésus, que nous vivons pour Jésus et que notre démarche quotidienne vise à nous approcher de Christ et à remplir ce que Dieu nous demande de remplir. Jésus va terminer, et on va s'arrêter là ce matin, en disant « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Donc Jésus prête allégeance à Dieu et de surcroît à ça, il renouvelle aussi son engagement envers le service de Dieu. Important, parfois on prête allégeance à Dieu, mais on ne fait pas de vœux de service. Jésus est très clair ici. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Donc Jésus manifeste, renouvelle ses vœux envers Dieu, son allégeance envers Dieu, et renouvelle son engagement quant à vivre une vie de service envers Dieu. Plus le diable le tente, plus Jésus devient tranchant. Et à un moment donné, il dit, c'en est fini, on arrête ça. Je sers Dieu, j'ai proclamé Dieu sur ma vie, et de surcroît à cela, je vais travailler pour Dieu pour le restant de mon existence. Alors, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu que le diable essaie de nous soudoyer avec l'autorité, avec l'appât d'une autorité quelconque. Le diable essaie de nous soudoyer avec l'appât d'une gloire quelconque. Le diable essaie de nous soudoyer avec l'appât d'un gain qu'on pourrait aller chercher. Le diable essaie de nous proposer un changement d'allégeance. Le diable essaie de nous proposer un compromis, même ponctuel, même bref, mais avec des conséquences qui sont immenses quant à nous. Et la réponse que Jésus nous enseigne, la réponse qu'on apprend par la position, la prise de position de Jésus, c'est un, il est ancré et il se réfugie immédiatement dans la parole de Dieu. Deux, il proclame cette parole de façon audible. Le diable l'entend, les gens qui seraient autour de lui pourraient l'entendre. Donc, il y a une force dans la proclamation audible de la parole. Troisièmement, sa réponse est tranchante, sans hésitation. Il n'y a pas ce temps un peu ballottant, savoir est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je le considère ou je ne le considère pas. Jésus, c'est non, non, non et non, et de façon tranchante. Il renouvelle de surcroît et proclame son allégeance envers Dieu. Et enfin, il renouvelle son engagement à servir Dieu. Alors voilà ce que nous avions. On avait peut-être une autre petite chose, mais là il est déjà 9h05, donc je ne veux pas abuser de votre temps. On le verra à un autre moment. La séquence de la tentation, comment se passe la tentation. Alors voilà ce qu'on avait pour cette semaine. On va prier que Dieu nous bénisse aujourd'hui. Alors merci Seigneur pour ce temps que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette occasion d'être rassemblés et d'avoir entendu ta parole. Merci pour cet exemple que tu nous as donné. Toi qui étais, oui, 100% Dieu, mais aussi 100% homme, et qui a été tenté en toutes choses, telle que ta parole nous le dit. Tu nous as montré comment, cette semaine, résister au diable, résister à la tentation. Alors nous te disons merci, Seigneur, d'avoir pris ce temps pour nous enseigner, pour probablement fortifier notre âme, notre esprit, afin, Seigneur, de résister quand le diable viendra frapper à notre porte en nous faisant ses propositions quelconques. Merci, Seigneur, d'arroser cette parole qui a été prononcée par ton onction, par ton Esprit Saint, que cette parole ne puisse en aucun cas et d'aucune manière être altérée par le diable, volée par le diable, détruite par le diable, mais que cette parole, sous l'effet de l'onction de ton esprit, puisse s'enraciner fermement dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, dans notre esprit, et croître afin de porter un fruit qui t'est agréable dans notre vie de tous les jours, mais jusqu'aussi, jusque dans l'éternité. Alors j'appelle ta bénédiction sur ma sœur et sur mon frère. Merci d'avoir été là, Seigneur. Nous t'avons prié dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. Je remonte un peu pour saluer quelques personnes que je n'avais pas saluées tout à l'heure. Donc voilà. Donc, quelques petites annonces. On vous rappelle, ce soir on est là à 19h pour notre temps de prière et d'intercession, qu'on a typiquement le vendredi soir. Et de surcroît à cela, il est encore temps de vous inscrire pour l'assemblée de dimanche. Il reste encore de la place. Vous savez qu'on a agrandi un peu l'espace, où on a rajouté des chaises pour accommoder un plus grand nombre de personnes. Donc, si vous voulez être là dimanche, simplement nous écrire par courriel ou au courriel de l'église, bien entendu, ou nous appeler au numéro habituel de l'église en laissant votre message. Les confirmations pour l'assemblée vont se faire cet après-midi à travers des appels téléphoniques ou des contacts que ma mère aura cet après-midi. Alors voilà. Alors bonjour Jonathan, la belle-sœur. Bonjour France et Patrick. Bonjour à Rosie. Rebonjour, je crois, à la sœur Teresa. Bonjour à Yolène. J'essaie de voir s'il y a d'autres personnes. Bonjour à Suze, Mérès et la petite famille. Bonjour à Janine. Et je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Les autres, je vous ai déjà salué plus tôt, ou sinon, je ne vois pas votre nom qui apparaît. Alors sur ce, bonne journée. On se retrouve ce soir à 19h. N'oubliez pas de vous inscrire pour assister en présentiel à l'assemblée de dimanche. Au revoir tout le monde.